suis très heureux de le recevoir à l'émission. Je m'étais dit, si Mboko est en mesure de mettre la main sur le tournoi de Montréal à 18 ans, c'était certain que j'allais lui jaser durant mon remplacement dans le retour des sportifs. C'est Alex Régimbal du podcast Sur la ligne qui est avec nous. Salut Alex, comment ça va?
Salut FX, ça va bien? Première journée de vacances pour moi, là, officielle, alors...
Je te dérange durant mes vacances. Toi? Moi, je reviens en onde et je décide de te déranger durant tes vacances. Regarde, je te laisse aller après les 10 prochaines minutes, mais t'es bien gentil de nous donner du temps en cette belle journée en plus à l'extérieur. Écoute, très simple en commençant, comment as-tu passé les dernières semaines? Comment as-tu passé cette dernière semaine à l'Omnium Banque Nationale? J'en parlais hier en début d'émission, mais j'étais présent à la demi-finale entre Mboko et Rybakina. Sérieusement, là, quelle force de caractère de Mboko qui par la suite l'a emporté en trois manches en finale contre Naomi Osaka. Mais toute cette histoire-là, cette semaine-là à Montréal, l'effervescence, c'était incroyable de voir le public montréalais se ranger derrière elle, Alex.
Mais là, avant de répondre à ta question, on va mettre quelque chose au clair. Hein. Comment ça se fait que tu es venu pour la demi-finale et que tu ne m'as pas averti?
C'est vrai que j'aurais dû t'averti.
Tu as une couple de minutes, un petit message tech, quelque chose.
Mais c'est parce que je me suis dit, d'après moi, Alex doit être occupé. D'après moi, il est trop occupé. Je savais que tu étais occupé. Mais sérieusement, Alex, quelle semaine.
Ça a été complètement fou, honnêtement. Et on en parlait un peu hors d'onde. Là. Ça a été vraiment une semaine... incroyable pour le tennis canadien. Au début de la semaine, tu as Eugénie qui, annonce sa retraite, pousse la magie un peu plus loin, joue un match de plus. Puis après, ben, ça a été l'histoire Mboko qui est une histoire, c'est un scénario de film, là, ce qui s'est passé là. On a assisté à un des plus grands moments du sport canadien, puis pas juste un des plus grands moments du tennis canadien, mais c'est un des plus grands moments du sport canadien de voir une fille de 18 ans aller jusqu'au bout comme ça. Puis tu posais la question pour nous, pour le podcast, ben, c'est sûr pour nous, puis nos commanditaires, Tennis Giant particulièrement, ben, ça a été une semaine qui a fait exploser le podcast. Fait que c'était vraiment, 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 vraiment le fun à vivre. Puis tu sais, c'est le genre d'événement que tu réalises peut-être pas tout de suite, tu sais, c'est dans 15-20 ans quand je vais regarder en arrière, puis je vais dire, on était là, puis aux premières loges, à faire la description, puis tu sais, assister à la naissance d'une fille que nous, on suit bien humblement, là, qu'on
Exact.
suit déjà depuis
Ouais.
plusieurs années. Ça fait 2-3 ans que Victoria Mboko, elle vient déjà sur mon podcast. On l'a eu dans ce qu'on appelle les car wash, là, c'est-à-dire tous les athlètes qui passent un après l'autre. Et Victoria n'a pas fait tant de médias que ça au début de la semaine, évidemment, parce que le monde n'attendait pas, mais elle était venue à Sur la ligne parce que ben, nous, on la connaissait bien puis on s'entendait bien avec. On lui avait parlé un peu plus tôt, je pense même un peu plus tôt cette année déjà. Alors, non, ça a été une histoire fabuleuse. Puis, ben, franchement, ce qu'on a vécu, j'espère que les gens ont apprécié ce qu'ils ont vu. Je sais que les prix des billets ont monté en flèche aussi. Puis à la télé, même dans les soirs, le soir, là, les tribunes téléphoniques, ça parlait de tennis. J'avais jamais vu ça, là, tu sais. Alors, c'est malade que toi et moi, on ait pu assister à des moments historiques comme ça parce que c'est pas banal ce que cette petite fille de 18 ans-là a réussi à faire.
Mais elle a débuté l'année, elle était quoi, 350e joueuse mondiale, elle a 18 ans. Est-ce que tu... Puis là, maintenant, elle a fait un bond de la 85e à la 24e, rang mondial. Est-ce que déjà, à un certain âge, tu pouvais te dire qu'elle aurait un aussi grand impact dès 18 ans dans le circuit de la WTA? C'est toujours difficile à percevoir, là, mais est-ce qu'on parlait déjà d'elle comme une étoile montante quand elle avait quoi, 15, 16, 17 ans?
Ben nous, on le faisait en tout cas. Je veux pas nous taper dans le dos inutilement,
ouais.
Mais nous, on l'a fait. On l'a fait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de Victoria Mboko parce que oui, à des 15, 16, 17 ans, elle faisait des résultats dans des tournois pro que, bon, on n'avait pas vu souvent là, pour des Canadiens puis des Canadiennes. Puis c'était genre dans des tournois, des fois un peu plus mineurs, là, ITF, mais elle se rendait très loin. Puis tu dis, oh, c'est contre des joueurs pro, là, ça. Et parfois, la différence entre, bon, un 150e mondial puis un 200e mondial, des fois, elle n'est pas si énorme que ça. Puis à 150, ben, tu cognes à la porte des grands chelems, là, parce que c'est 128 joueurs. Ben, le tableau de l'Omnium Banque Nationale, c'est 128 places. Pas exactement 128 joueurs, là, parce qu'il y a des bails, là. Mais oui, on la voyait venir, puis oui, ça faisait longtemps qu'on la voyait venir. Maintenant, est-ce qu'on la voyait remporter un WTA 1000 à 18 ans chez elle au Canada, à Montréal, puis battre quatre champions du grand chelem? Là, j'aurais pas parié tant que ça, mais il reste que oui, c'est un talent qu'on surveillait. C'était le principal talent qu'on surveillait et il est en train d'éclore sous nos yeux. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ça ira et combien de temps ça durera. Ça, c'est la question.
Ouais, je vais te parler un peu parce que au tennis féminin, on l'a vu avec Eugénie Bouchard à l'époque, on l'a vu également avec Bianca Andreescu, et là on le voit avec Mboko à seulement 18 ans. On a vu quand même des années incroyables de jeunes joueuses de tennis canadiens finalement se faire une place dans la WTA, connaître du succès, mais on le fait quand même à un jeune âge souvent. À quel point c'est difficile de répéter ça pour les prochaines années dans le cas d'une joueuse comme Victoria Mboko qui arrive là à 18 ans, aller voir les commanditaires, y voir tout ce qui vient par la suite. Comment tu vois son talent se développer au courant des prochaines années?
Ben, tu sais, il n'y a que elle qui a vraiment la réponse à ça. C'est sûr que les cas de Bianca et d'Eugénie sont très différents avant elle. Bon, Eugénie est dans une ère où c'est très puissant. T'as les Serena Williams, t'as les Maria Sharapova, t'as ces filles-là. Bon, on dirait des Simona Halep là, qui se sont mis dans le mix dans cette génération-là aussi, qui s'en sont bien sorties. T'auras eu raison. Mais dans le cas de Bianca, c'est surtout les blessures parce qu'une Bianca en santé, elle est encore parmi les meilleures au monde et j'oserais dire parmi les top 10 au monde, Bianca Andreescu, quand elle est sans santé. Mais les blessures après blessure, après blessure. Alors, pour répondre à ta question, si elle peut éviter les blessures, dans le cas de Victoria Mboko, c'est pas la puissance le problème. On sait déjà qu'elle est capable de rivaliser avec les plus puissantes du circuit, ne serait-ce que une fille comme Rybakina qu'elle a affrontée qui est relativement puissante. On sait déjà qu'elle peut non seulement jouer, mais battre les meilleurs au monde. Maintenant, ce sera dans la constance. Et c'est ça qui fait que les grands restent en haut, que ce soit les Federer, les Serena, etc. Ben, c'est la constance dans les résultats. Gagner un tournoi WTA 1000, c'est déjà exceptionnel. Ça marque déjà une carrière. Maintenant, ce sera à elle de voir, dans la constance des résultats. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai parlé, et je sais que vous l'avez fait aussi, vous avez parlé à Virginie Tremblay, si je ne me trompe pas, qui
ouais,
était
exact.
Bon, sa préparatrice physique
exact.
Ou son entraîneuse physique. Et moi, ce qu'elle m'a dit, c'est Alex, il reste encore tellement de place pour se développer, ne serait-ce qu'au niveau encore de la force physique, de la flexibilité aussi. Alors, il reste encore beaucoup d'améliorations, ne serait-ce qu'au niveau physique. On peut également imaginer qu'à 18 ans, elle n'est pas non plus à son top de tout ce qu'elle peut faire techniquement au niveau tennis. Alors, est-ce qu'on peut espérer de grandes choses? La réponse à ça est oui. Est-ce qu'elle pourra le faire avec constance? On verra, les années vont nous dire. Mais est-ce que la recette ou les ingrédients du succès sont là dans le cas de Victoria Mboko? Ben ça, je pense que la réponse à ça, c'est oui. Et on a déjà la preuve parce qu'elle a déjà réussi quelque chose d'absolument phénoménal. Tu sais, 4 championnes de Grand Chelem, là, on n'avait pas vu ça depuis, sais-tu quand? 4 championnes de Grand Chelem dans le même tournoi, battues par une fille de cet âge-là. On n'avait pas vu ça depuis 1999.
Aïe, aïe, aïe.
Devine qui l'a fait.
Serena Williams?
Serena Williams.
Voilà.
Regarde, ça te donne une idée de ce genre de... Puis elle avait fait de genre de trucs là, dans des tournois de niveau un peu plus mineur, là, déjà des âges un peu plus bas. On commençait à se dire, ouf. Fait que, ouais, on a raison de rêver, je pense, pour Victoria Mboko. Je pense que c'est vraiment pas dénué de sens. Maintenant, regarde, c'est... Là, les filles vont l'attendre. Tu sais, c'est les filles vont observer son jeu. C'est plus une surprise, là. Fait qu'il y aura ça. Mais ouais, on peut définitivement rêver dans le cas de Victoria Mboko et j'espère qu'elle le fait aussi.
Je veux terminer un peu avec ce qui s'est déroulé durant la finale. Naomi Osaka qui remporte la première manche. Par la suite, Mboko qui revient, l'appui de la foule. Une joueuse avec autant d'expérience, Alex, que Naomi Osaka. Et là, on a vu des signes de frustration durant le match. Il y a eu un avertissement notamment de l'arbitre. Et on l'a vu à la fin de la rencontre qui n'a pas nécessairement félicité Victoria Mboko. Moi, j'avais beaucoup de respect pour Naomi Osaka qui a remporté quand même des grands chelems, qui a eu une période un peu plus creuse par la suite, qui a eu les blessures, il y a eu les problèmes de santé mentale qu'elle a partagé, qu'elle a ouvert au grand public. Elle en a parlé énormément pour sensibiliser les gens. Mais ça m'a agacé un peu de voir une joueuse avec quand même cette expérience-là qui a 27 ans, qui a connu quand même des gros moments étant plus jeune, de réagir de cette manière-là après la victoire d'Emboko. Est-ce que je suis le seul que ça peut déranger?
Non, ça fait jaser beaucoup. Maintenant, moi, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai une position un peu plus nuancée. Je ne te dis pas que c'est classe, qu'est-ce qu'elle a fait, ça ne l'est pas. Bon, l'éthique veut qu'après un tournoi que tu as gagné ou pas, tu remercies ton adversaire, tu remercies les commanditaires, les bénévoles, etc. Elle ne l'a pas fait. Bon. Mais il y a une chose que moi, j'apprécie de Naomi Osaka. Je ne suis pas en train de la défendre. Et c'est, elle fait ça avec constance, Naomi Osaka. Elle dit ce qu'elle pense. Elle ne sort jamais la cassette. Puis ça, moi, comme journaliste ou comme gens qui a couvert du sport toute ma vie, je l'apprécie. Puis ça se peut qu'après une défaite, comme je t'ai dit, là, je la défends pas, mais ça se peut qu'après une défaite, t'as juste pas le goût de regarder ton adversaire dans les yeux puis de dire, ben félicitations. Puis ça, c'est Andy Roddick qui l'a dit. Elle a décidé de pas être hypocrite. Bon, est-ce qu'elle l'a juste oublié de ça? Elle est revenue par la suite, là. Elle s'est excusée, elle a remercié, elle a félicité Mboko. Elle l'a fait après. Mais moi, je suis prêt à lui donner un petit peu le bénéfice du doute sur le fait que, regarde, tu viens d'avoir un match elle l'a échappé, ce match-là. Elle avait dominé la première manche. Puis t'as une fille de 18 ans que personne connaissait ou à peu près avant le tournoi, qui finit avec le trophée dans les mains devant toi, qui, par ailleurs, a dit que c'était son idole. Bon. Ce qui m'a fasciné, par contre, et c'est là où là, je trouve que dans le cas de Naomi Osaka, c'est un peu plate. Parce que la veille, Naomi Osaka dit, c'est une clip qu'on a sorti sur nos médias sociaux, sur la ligne, vous pouvez la voir, là, il y a 1 million de personnes qui l'ont vu par ailleurs.
Ouais.
Elle a dit, on lui a posé la question, bon, Mboko, c'est ton. Elle est ton. Mboko avait dit que c'était son idole, Naomi Osaka. Et là, tu vas l'affronter. Puis là, elle était toute surprise, puis elle était contente, puis sa réponse était parfaite. Elle était comme, wow, je vais essayer d'avoir une bonne attitude, hein, parce que je veux quand même après. Puis là, tu arrives sur le terrain, puis tu fais ça. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu plate, c'est contradictoire avec ce qu'elle avait dit la veille. Puis, ben, c'est pas classe, mais d'un côté, je peux pas m'empêcher de dire, ben, garde, ça se peut que tu le sentes pas, là. Ça se peut que t'as pas le goût de. Tu sais, je sais pas. En même temps, si tu me demandes à moi, je l'aurais félicité, l'adversaire. Mais je peux comprendre que sur le coup des émotions, tout ça, et Naomi Osaka, faut lui rendre ça, elle n'a jamais caché ses émotions.
Non.
C'est la chose à faire, on peut en débattre. Est-ce qu'on peut y en vouloir d'avoir été honnête puis pas hypocrite? Ça, c'est peut-être une autre question.
Excellent. Mais de toute façon, dans le cas de Victoria Mboko, elle est maintenant la joueuse canadienne la mieux classée, Alex, sur le circuit de la WTA. Elle a commencé l'année quand même au 350e rang mondial, 24e maintenant, avec le US Open qui s'en vient. Elle a fait une croix, évidemment, sur le tournoi de Cincinnati. Blessure, je crois, au poignet, qu'on avait pu apercevoir en demi-finale contre Rybakina, à moins que je me trompe, là.
Non, ben, elle savait, c'est quand elle a eu sa chute, j'ai
Exact.
l'impression,
Ouais.
par la suite, là. C'est ça qui est quand même impressionnant, c'est que, tu sais, on n'était même pas sûr, là, si après cette chute-là ou après un set perdu, ça allait revenir, parce qu'elle est revenue de l'arrière tout le temps, ou à peu près, là, à partir des quarts de finale. Fait que non, c'est quand même exceptionnel ce qu'elle a fait. C'est bien qu'elle ait pris une pause à Cincinnati. Elle n'a pas de points à défendre de toute façon.
Exact.
Puis là, elle va aller au US Open, puis ça va être juste du gravy, comme on dit. Puis la fin de la saison, ben, elle va pouvoir engranger des points parce que, bon, après le US Open, on dit souvent que c'est la saison des connaisseurs, là, au sens où le public mainstream délaisse un peu le tennis. Puis là, ben là, c'est vraiment les connaisseurs. Il reste encore là, les finales de la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup. Il reste encore des tournois de niveau 1000 et les finales de l'ATP, de la WTA, excuse-moi. Et c'est à peu près, bon, à fin novembre là, que ça s'arrête. Au mois de décembre, c'est un peu plus tranquille. Et déjà, fin décembre, on recommence pour l'année 2026.
Je veux te parler un peu du tournoi de Cincinnati qui est en cours parce qu'on a quand même des joueurs chez les hommes. Félix Auger-Aliassime est encore en liste, mais juste avant, je veux te parler de Gabriel Diallo qui hier s'est incliné en deux manches de 6-2 et 7-6 contre Yannick Sinner. Diallo avait l'occasion de terminer le match lors du bris d'égalité. C'est lui qui servait le retour de Sinner complètement fou. Finalement, Diallo perd le bris d'égalité, mais dans les circonstances, comment as-tu trouvé sa performance et comment t'entrevois un peu la fin de saison qui se dessine pour lui? Encore une fois, un jeune joueur sur le circuit qui a gagné un tournoi un peu plus tôt aux Pays-Bas cette année et qui commence de plus en plus à se faire un nom sur le circuit, lui, de l'ATP.
Ouais, ben dans le cas de Diallo, là, je pense pas qu'on peut y reprocher grand-chose. Tu joues quand même contre le numéro un mondial, un gars qui perd à peu près pas là, depuis le début de la
Ouais.
saison, à part quand il joue
Carlos
contre
Alcaraz.
Raz, là. Ouais. Mais Yannick Sinner, je veux dire, tu sais, hier, oui, est-ce que Diallo remporte le bris d'égalité de la deuxième manche? On s'en va au troisième set, et là, peut-être que c'est une autre histoire, peut-être. Mais je pense que dans le contexte, déjà, d'amener le numéro un mondial contre au bris d'égalité, ben, c'est déjà pas si mal. Puis, tu sais, Gabriel Diallo, c'est quand même un 35e mondial, là, sera probablement 33e lundi prochain. Déjà engrangé 1 million, tu l'as dit, il y a déjà un titre, déjà une excellente saison pour Gabriel. C'est sa saison d'éclosion vraiment à lui sur le circuit de ATP, là, il s'est établi comme un joueur régulier. Et puis, ben, je pense que c'est un autre qui peut aspirer à de grandes choses sur le circuit de l'ATP dans les prochaines années.
Je veux finir en te parlant de Félix Auger-Aliassime. Première fois qu'il passe le troisième tour d'un Masters 1000 cette saison avec cette victoire par abandon de son adversaire à Cincinnati. Félix a quand même gagné les tournois, Alex, en début d'année. Est-ce qu'on peut parler d'une année difficile ou on peut juste parler d'une année où, dans le cas de Félix, c'est juste que dans les tournois d'importance, comme les Masters 1000 ou les tournois du Grand Chelem, il n'est pas en mesure d'obtenir les résultats escomptés?
Ouais, la question que tu poses, elle est bonne. J'ai de la misère à définir ça comme une année difficile quand tu as deux titres puis une finale. Vraiment, la plupart des joueurs feront pas ça, là. Fait que j'ai de la misère à définir ça. Je vais dire que c'est une année difficile dans les tournois importants. Je le dirai pas pour sa saison en général, parce que sa saison en général, elle est non seulement acceptable, mais bien, je pense. C'est quand même deux titres, là, quatre demi-finales dans des tournois ATP. Bon, la finale à Dubaï, les titres à Adélaïde et Montpellier, là.
Ouais.
Et deux titres, c'est vraiment pas banal. Mais tu as raison que dans les grands chelems et les tournois d'importance, particulièrement niveau 1000, ben, ça a été plus compliqué. Alors, c'est plus ça. Est-ce que là, le vent est en train de changer? Ben, qui sait? Il a tout le talent au monde. Et contre Benjamin Bonzi, ben, on verra qu'est-ce que ça donnera. Mais c'est peut-être un adversaire prenable pour lui pour se rendre au prochain tour, là.
Alex Réginbald, comme à l'habitude, un gros merci pour ton temps, toujours excellent. D'ailleurs, je voulais te lire le texto de Martin Thériault, que tu connais bien sur la messagerie texte. Il faut le dire, Alex Réginbald, c'est le John McEnroe du tennis au Québec. Personne ne connaît ça comme lui. Alors, voilà le
C'est
message de
beaucoup
Martin
de
que tu connais
pression.
très bien.
C'est beaucoup de pression, mais merci l'ami Martin. Ça fait plaisir à lire. Quand on est entouré de bonnes personnes, les choses sont plus faciles dans la vie. Des bonnes personnes comme toi, mon cher FX.
Je savais que ça allait te faire sourire le texto de Martin. Un gros merci à toi, Alex Réginbald, du podcast Sur la ligne, encore une fois pour ton temps avec moi aujourd'hui.
Yes, bye bye.
Merci beaucoup. Alors, Alex Réginbald qui était avec nous, on s'arrête quelques instants et au retour, nouvelle qui est tombée ce matin. L'Université de Sherbrooke et Serge Chavard ont annoncé un don majeur de 6 millions de dollars pour la création d'un programme d'hockey universitaire vert et or, tant féminin que masculin. On en parle avec Phil Marlowe du bulletin sportif.ca au retour.